France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Sébastien Soriano.
Bonsoir Zoé Sfez.
Merci d'être avec nous ce dimanche soir. Je l'ai dit, vous êtes le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui est une autorité administrative qui est, si on le fait court, le gendarme des communications électroniques, qui régule, qui évalue aussi, qui fait plein de choses. On va parler avec vous de la neutralité du net. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que nous sommes à la veille d'un jour important. Demain, aux États-Unis, les règles qui garantissaient ce principe, et qui avaient été d'ailleurs voulues par Barack Obama sur le territoire américain, ne seront plus en vigueur. Pour comprendre alors comment cette décision a été prise, quelles en seront les conséquences, et même ce qui se passe ici en France, est-ce qu'il y en aura? A priori, on verra que non. Mais juste, est-ce qu'on peut revenir sur ce principe? Qu'est-ce que c'est concrètement et philosophiquement la neutralité du net? De quoi on parle?
Eh bien, la neutralité du net, sous couvert d'une discussion qui peut paraître assez technique, c'est un principe élémentaire qui garantit qu'Internet est un espace ouvert. Internet est né d'une idée qui est un peu le contraire d'un système centralisé classique qu'on a dans les réseaux télécoms, qui est que tout le monde est bienvenu pour se connecter à Internet. Pour se connecter, non seulement pour regarder ce qu'il y a sur Internet, mais tout le monde est bienvenu aussi pour contribuer à Internet. Et c'est cette ouverture, c'est-à-dire que personne ne contrôle Internet, c'est ouvert, il n'y a aucune autorisation, on n'a rien besoin de payer ou rien besoin de demander pour se connecter. Et c'est cette ouverture d'Internet qui a permis l'explosion de l'innovation, l'explosion de l'expression dans les années 90, les années 2000. Et en fait, on s'était jamais vraiment rendu compte que cette ouverture, elle reposait quand même sur un principe. Et ce principe, c'est que les intermédiaires, et notamment les opérateurs télécoms qui vous connectent à Internet, eh bien, ils n'interviennent pas sur les flux Internet. Et c'est un principe qui peut paraître évident. D'ailleurs, nous, on régule aussi la Poste à l'ARCEP. Et dans la Poste, ça reviendrait pas à l'esprit de se dire que la Poste traiterait différemment un colis suivant qu'il est envoyé à telle personne ou à telle autre, ni encore moins à regarder ce qui est à l'intérieur de ces colis et de ces lettres. Eh bien, dans les télécoms, ce principe existait, mais sans jamais avoir été posé. Et il y a eu un débat très important, qui continue donc à exister aux États-Unis, de savoir est-ce que ce principe doit être posé ou est-ce qu'on laisse le marché faire? Est-ce qu'on laisse les opérateurs télécoms choisir s'ils souhaitent avantager ou non certains contenus?
Certains contenus et parfois évidemment les leurs. Alors l'autre argument de ces opérateurs télécoms, aussi bien aux États-Unis que parfois ailleurs qu'aux États-Unis, même si en Europe on a l'impression que c'est quand même plus faible, c'est aussi de dire bah nous en fait on paye ce qu'on fait, c'est cher. Aujourd'hui il y a beaucoup de contenus sur Internet, il y a notamment la fameuse bande passante et notamment des nouveaux services comme Netflix avec de la vidéo qui sont extrêmement coûteux. Finalement, c'est une manière aussi tout simplement pour nous de rentrer dans nos frais puisque tous ces agents qui existent sur Internet ne payent rien et c'est nous qui faisons le boulot.
Oui, effectivement, je connais cet argument. Mais
je donne cet argument avec le caduc, bien sûr.
C'est quand même, ce qu'on oublie quand même de mentionner, c'est que nous payons, nous, tous les consommateurs, des abonnements à Internet. Et donc, nous payons à travers nos forfaits d'accès fixe, nos forfaits mobiles, nous payons le droit d'avoir accès à Internet. Et ensuite, cet Internet est ouvert et il est neutre. Là où il y a une discussion, c'est que les opérateurs disent « Oui, bon, c'est vrai qu'il y a les consommateurs qui payent, mais je pourrais aussi faire payer les autres acteurs de l'Internet. » Et là, effectivement, il y a une limite qui est mise. Il y a une limite qui est mise parce que, au fond, faire payer les acteurs de l'Internet pour qu'ils aient le droit d'accéder aux clients, c'est un peu, vous connaissez cette expression, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. C'est un peu faire se transformer les consommateurs en produits. C'est-à-dire finalement, j'ai des abonnés, je suis un opérateur télécom, eh bien je vais monétiser cette audience, un peu comme peut le faire une chaîne de télévision avec des annonceurs. Je vais monétiser cet accès à des abonnés pour la vendre à des acteurs d'Internet. Eh bien, il y a une limite très forte qui est mise à ce principe avec la neutralité du net.
Alors la neutralité du net, on va voir, nous, on est dans des mouvements tout à fait différents avec les États-Unis et l'Europe, puisque l'Europe a sanctuarisé ce principe en 2015, alors que les États-Unis, donc on l'a dit, la FFC, qui est l'autorité de régulation américaine des communications, a validé par un vote 3-2 le démantèlement des lois qui avaient été passées par Obama, qui obligeaient les opérateurs télécoms à fournir le même débit à tous les services. Alors nous, on l'a sanctuarisé, eux ils font ça. Qu'est-ce qui se passe? Déjà tout simplement, qui sont ces fameuses autorités qui prennent ces décisions? Pourquoi est-ce que c'est si différent et pourquoi est-ce que ça a été possible aux États-Unis?
Le cadre de régulation est complètement différent aux États-Unis et en Europe. En Europe, ce sont les autorités politiques hein, le Parlement européen, le Conseil européen, la Commission européenne, qui définissent les règles. Et ensuite, il y a des gardiens de ces règles, qui sont indépendants, comme l'ARCEP.
Vous en faites partie.
Comme l'ARCEP en France. Aux États-Unis, c'est mélangé. C'est la même autorité qui définit les règles et qui ensuite les fait respecter. Et cette autorité, la FCC, eh bien, du coup, quand il y a des changements politiques, son président change. Et donc, avec l'arrivée de Donald Trump, le président de la FCC a changé. C'est devenu M. Ajit Pai. Et M. Ajit Pai a décidé de retirer ce qu'avait fait son prédécesseur. Son prédécesseur avait créé la neutralité du net. Eh bien, il l'a retiré. Et donc, c'est cette différence fondamentale de système politique et administratif qui fait qu'un principe a pu être posé en Europe, et il le sera pour longtemps, et de manière solide, quelles que soient les divergences politiques, maintenant il est là, alors qu'aux États-Unis, on va avoir un aller-retour. On parle aujourd'hui de la suppression de la neutralité du net aux États-Unis, mais il est très vraisemblable que dans 2 ans, dans 3 ans, elle revienne éventuellement sous une forme différente.
Et alors justement, quelles en sont les conséquences? Concrètement, à partir de demain, que se passe-t-il? Que peut-il se passer aux États-Unis, et est-ce que ça aura des conséquences sur la manière dont nous, on reçoit, on vit le web en Europe? Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe?
C'est la grande inconnue. Ce qui paraît peu crédible, ce serait que les opérateurs se mettent à devenir des censeurs et se mettent à bloquer certains contenus. Parce que ça poserait des problèmes de liberté d'expression. Et puis, le consommateur, c'est pas sûr qu'ils apprécient énormément d'avoir qu'un bout d'Internet. Et donc, ils pourraient faire jouer potentiellement la concurrence. En revanche, ce qui est tout à fait envisageable, c'est que les opérateurs donnent avantage à certains contenus. Par exemple, qui donnent avantage à iTunes Music plutôt que Spotify, par exemple, parce qu'ils auront eu un accord préférentiel avec iTunes Music. Et donc ce type d'accord, ce type de deal pourrait se développer de manière assez forte dans des domaines importants, notamment la télévision, bien évidemment, qui utilise ces réseaux, mais aussi, comme je viens de le dire, la musique. On pourrait imaginer les réseaux sociaux aussi, un deal exclusif avec Facebook. Alors il se trouve que Facebook n'a pas beaucoup de concurrents, donc ce ne serait pas forcément très grave. Mais WhatsApp, par exemple, ou ce genre d'accord exclusif qui donne un avantage et qui pousse à ce qu'on appelle une espèce d'intégration verticale. Hein, c'est-à-dire que c'est la même personne qui va contrôler à la fois le réseau et les contenus, ou bien parce que c'est juste le même propriétaire.
Vous avez en ce moment, lui-même.
Voilà, vous avez en ce moment un grand débat aux États-Unis autour d'une potentielle fusion entre AT&T, qui est le principal opérateur américain, et Time Warner. Et donc, si cette fusion va à son terme, on pourrait très bien imaginer qu'il donne avantage à ses propres contenus sur les réseaux. Donc c'est une inconnue. Quelles conséquences pour l'Europe? Aucune pour le consommateur européen, puisque le consommateur européen bénéficiera toujours de cette neutralité du net. Le problème pourrait se poser pour les acteurs du net européens. Je sais, vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup, ou alors ils ne sont pas très forts.
C'est un petit peu la question d'ailleurs, voilà, bon, que je vais vous poser.
Mais il y en a quand même, et comme je l'ai signalé tout à l'heure, il y a Spotify par exemple. Spotify, c'est un acteur suédois, c'est un acteur européen. On pourrait imaginer que son accès à Internet demain soit entravé aux États-Unis.
Une petite question, avocat du diable, justement, certains, alors pas tous, mais certaines idées politiques ont d'ailleurs à un moment donné imaginé la fin de neutralité du web pour potentiellement lutter contre les GAFA. Parce que si aujourd'hui la neutralité du web était terminée en France, ou en tout cas on faisait tomber le principe, on pourrait peut-être imaginer que ça redonnerait du pouvoir à des opérateurs télécoms français ou européens contre des grands groupes comme Netflix, ce qui serait aussi un moyen de les taxer. Je sais que ça a été une des idées, notamment ça a été évoqué à certains moments par l'équipe de Fleur Pellerin à une certaine époque, de laquelle vous avez d'ailleurs fait partie. Est-ce que finalement, la fin de la neutralité du web, ce ne serait pas aussi un moyen, bah justement, nous, de faire de la préférence nationale? C'est une question tout à fait avocat du diable, mais certains l'ont imaginé.
C'est une bonne question, mais la réponse est clairement que ce serait une très profonde erreur. Parce que ce serait se tromper de combat. Ce serait essayer de mener le combat d'hier. Regardez un instant quelle a été la capacité d'innovation des opérateurs télécoms sur Internet à travers le monde. Je ne vais certainement pas stigmatiser les opérateurs français, mais à travers le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opérateurs télécoms qui, au cours des 15 ou 20 dernières années, ont inventé des trucs géniaux sur Internet? Moi, j'en connais pas. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'il faut donner avantage aux opérateurs télécoms. La question, c'est comment est-ce qu'on crée un terrain de jeu qui permet à d'autres boîtes que les GAFA de pouvoir exister, peser et s'affirmer sur le marché. Et ça, c'est un débat très important. Et à l'ARCEP, nous avons fait une proposition qui va dans ce sens, qui concerne non pas seulement la neutralité des réseaux, mais aussi la neutralité de ce qui permet de se connecter au réseau.
Tout à fait.
Nous pensons qu'il y a un maillon faible dans le système.
Ce sont les terminaux, voilà, que les smartphones.
Absolument, que le système est borgne, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'ARCEP et à ses homologues, donc c'est-à-dire les régulateurs des réseaux, de récurer les tuyaux que sont Internet. Et alors là, ils sont propres, ça brille, c'est magnifique. On a rendu notre rapport cette semaine sur l'état de l'Internet en France, qui montre que la situation est plutôt satisfaisante. Mais personne ne s'intéresse aux robinets d'Internet que sont les terminaux.
Parce que, en fait, pour terminer, ce sera notre dernière question. Effectivement, vous l'avez dit, c'est dans cette fameuse sanctuarisation du principe de la neutralité du net, on parle des opérateurs, mais on ne parle pas des terminaux, donc notamment pas des smartphones. Ensuite, il y aura les assistants vocaux et il y aura évidemment les enceintes connectées, qui sont des terminaux qui, eux, contrairement à l'ordinateur, vont eux-mêmes faire de plus en plus de choix.
Les objets connectés vont prendre le pouvoir sur Internet, de manière extrêmement claire. Parce que demain, quand vous allez parler à un assistant vocal, vous n'allez plus lui demander « mets-moi France Culture, je suis désolé », mais vous allez lui demander « mets-moi une émission sympa » ou « mets-moi des nouvelles ». »«
Mets-moi Soft Power ».
Voilà. Voilà. Et donc, vous avez tout un tas d'acteurs qui vont être complètement désintermédiés. Quand vous allez parler à effectivement votre assistant vocal dans la cuisine pour faire les courses, eh bien, c'est Franprix qui va être désintermédié, c'est tout un tas d'acteurs. Et donc, l'assistant vocal, l'agent vocal, qui est un agent d'intelligence artificielle, le logiciel qui est derrière ça, il va tout décider à votre place. Et ça, c'est une prise de pouvoir qui va être fantastique vis-à-vis de tout ce qui est Internet, tout ce qui sont les contenus, tout ce qui aujourd'hui est l'objet d'un fleurissement et d'une ouverture.
Merci beaucoup Sébastien Soriano, donc qui milite pour que la neutralité du net soit pensée jusque dans les terminaux. Vous êtes le président de l'ARCEP, merci beaucoup d'être venu nous rappeler ces informations élémentaires, mais néanmoins capitales, autour de la neutralité du net.